Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Personnalité importante de Toulouse, homme de grande culture, homme de conviction, homme de caractère et d'humour, l'universitaire Georges Mailloz, décédé en 2016, a laissé une forte impression chez tous ceux qui l'ont rencontré. S'il ne s'est point lancé dans l'aventure littéraire que son savoir, son écriture et son originalité auraient pu laisser envisager, il a néanmoins laissé des écrits, fruits de colloques, cours, conférences ou réflexions plus intimes. Ces écrits ont été rassemblés dans un ouvrage intitulé « Et ainsi de suite », édité par les éditions Priva sous l'égide de Pierre Cadars, haute personnalité toulousaine, proche de Georges Mailloz. Et c'est Pierre Cadars que j'ai le plaisir de recevoir pour nous parler de cet ouvrage et de son auteur. Pierre Cadars, bonjour.
Oui, bonjour. Je dis tout de suite, haute personnalité, un degré au-dessous de Georges Mailloz.
Ah, voilà, que vous faites un accès de modestie, mais non. Ce que je dis, bon, je le maintiens. Professeur, en tout cas, au départ d'histoire, vous avez été pendant longtemps directeur de la Cinémathèque de Toulouse, deuxième Cinémathèque, après Paris, je précise. Mais auparavant, vous étiez au rectorat, directeur du cabinet du recteur et responsable de l'enseignement supérieur. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez rencontré, je pense, Georges Mailloz. Vous avez collaboré à plusieurs revues, dans l'anthologie du cinéma, Positif. Vous avez écrit deux ouvrages, l'un sur Gérard Philippe et un autre dont le titre est « Les séducteurs du cinéma français ». Vous voyez, j'ai noté ça. Historien donc, cinéphile bien sûr, mais aussi grand amateur d'opéra, de tableaux et de chats. Donc vous n'êtes pas foncièrement mauvais. Alors, beaucoup de points communs avec Georges Mailloz, je ne sais pas pour les chats. Vous êtes curieux de tout, ouvert à tous les savoirs lui-même, à toutes les cultures et finalement inclassable, ce qui est plutôt sympathique. Et on comprend l'amitié qui vous lie. Alors, je pense que vous l'avez connu quand vous étiez au rectorat, probablement.
Non, je l'avais connu un tout petit peu avant, c'est-à-dire que vous avez fait le portrait de Georges Mailloz, il est très vrai, vous avez fait le mien, il est un petit peu exagéré, mais donc, on avait au moins en commun d'aimer le cinéma. C'est-à-dire que c'est par le cinéma que j'ai connu Georges Mailloz dans les années 70. C'était un amateur du cinéma, même s'il n'est absolument pas question de cinéma dans son livre dont on va parler.
Non, pas du tout. Ah, si.
Très peu.
D'Abelgance, vous voyez, je l'ai lu, voilà. Ce livre.
Mais disons qu'il n'avait pas beaucoup de questions. Il n'a pas écrit d'ailleurs, autant que je sache, sur le cinéma. Mais donc on aimait le cinéma et on aimait un cinéma, non seulement les grands chefs-d'œuvre qu'il faut aimer, mais également certains films moins connus des années 30-40. Et c'est ceux qui avaient créé une sorte de connivence avec Georges Mailloz. Par la suite, j'ai eu affaire à lui en tant que responsable de l'enseignement supérieur et également en tant que collègue de son épouse au rectorat.
D'accord.
Donc c'est comme ça que des liens d'amitié se sont créés.
Oui. Alors, je n'ai pas précisé le parcours universitaire de Georges Mailloz, somme toute assez classique finalement. Il était agrégé de lettres classiques, il a eu son premier poste au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, et il est devenu professeur à l'université du Mirail, où il terminera sa carrière avec deux mandats de président d'ailleurs. Spécialiste reconnu, même s'il n'aimerait pas ça, pardon Georges Mailloz, pardon vous qui êtes au ciel, reconnu des philosophes français du XVIIIe siècle et de l'œuvre de Voltaire à laquelle il a consacré une thèse, mais il a toujours manifesté un grand intérêt pour les lettres anciennes, les écrivains étrangers, beaucoup d'autres choses, pour la poésie, particulièrement celle de Mallarmé, Rimbaud, René Char. Et on est assez admiratif d'ailleurs de cet éclectisme. Il y a d'autres points communs, donc vous parliez du cinéma. Il a d'ailleurs, vous ne l'avez pas mentionné ça, il a favorisé des études à Toulouse, avec la création à l'université.
Oui, de l'enseignement du cinéma, voilà. C'est-à-dire qu'au début des années 80.
Sous votre impulsion,
Non, on en a parlé à l'époque. Moi, j'avais d'autres occupations, donc je ne suis pas allé. Mais disons qu'il est à l'origine de l'enseignement du cinéma à l'université à Toulouse.
D'accord.
Et de toute façon, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur et qui a continué à lui tenir à cœur tout le temps.
Alors, voilà un ouvrage donc intitulé « Et ainsi de suite », suivi d'Éclat du souvenir, une troisième, disons qu'un tiers de l'ouvrage. Cet ouvrage, pourquoi il s'est créé? Comment il s'est créé?
C'est après le décès de Georges Mailloz, son fils Pascal Mailloz m'a contacté, sachant que j'avais bien connu son père, que j'avais entretenu avec lui des liens d'amitié, je crois qu'on peut dire d'amitié, et en me demandant ce que je pensais de tout un ensemble de textes qu'avait rassemblé Georges Mailloz avant qu'il ne meure, et qui étaient des textes très divers. J'ai lu ces textes, et j'ai dit aussitôt à Pascal Mailloz que cela me semblait et il le savait déjà, il avait besoin d'un avis, mais son avis était déjà fait, tout à fait passionnant, d'autant plus passionnant que Georges Mayol a très très peu publié de son vivant.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
que ce n'est pas quelqu'un qui, comme certains de ses collègues universitaires, était toujours à l'affût d'un éditeur ou de textes à placer quelque part. C'est quelqu'un qui est toujours resté en retrait. Il disait un peu par boutade qu'on ne pouvait pas écrire après Proust. Alors, est-ce qu'il faut le croire? Certainement pas, mais c'était sa position, je crois.
Voilà. Alors, ce qu'il aimait entre tout, et on le voit déjà dans cet éclectisme, c'est établir des passerelles, des correspondances. C'est ce qui ressort pour moi de son livre, entre autres.
Oui, c'est un homme de culture. Je crois qu'il faut commencer par là.
Donc voilà. Oui.
Et un homme libre. C'est-à-dire la culture et la liberté qui peuvent très bien aller ensemble, on s'en rend compte en lisant ce livre et les différents articles. Et donc, pour lui, ce qui était important, c'est de s'inscrire dans une tradition, c'est-à-dire de voir dans le passé, qu'il soit littéraire ou historique, quelque chose qui pouvait annoncer les temps actuels, voire les temps futurs.
Alors Pierre Cadard, je vous arrête déjà tout de suite, parce que je trouve que à l'université, à la faculté de lettres, parler de tradition, c'est déjà en effet une grande liberté.
C'était une grande liberté, mais c'était un homme indépendant qui savait d'une manière très habile faire passer ses idées, et qui était également, j'ai pu m'en rendre compte lorsque j'assistais à des conseils d'université, un homme de synthèse, extrêmement habile, écoutant des voix diverses et tout en gardant sa direction prévue à l'avance, savait donner raison aux uns et aux autres.
Avec beaucoup d'humour, certainement.
Avec beaucoup d'humour, et finalement, il avait toujours raison. Mais ça, il ne le disait pas.
Oui. Alors, la culture, oui, moi, il y a un chapitre qui m'a étonné où il convoque à la fois Julien Gracq, Léon Daudet, Barès, Maurras, Descartes, Henri Bordeaux, le peintre Le Tintoret et d'Abel Gance, le film J'accuse, bon, qui est quand même pas très connu, et bien entendu les mythes antiques. Et vraiment, voilà, dans un seul chapitre, et tout ça paraît évident.
Ça paraît évident, d'autant plus que ce n'est jamais prétentieux, pédant, ce n'est pas une démonstration de savoir. Vous remarquerez que dans le livre, il n'y a pas de notes en bas de page, comme on le fait souvent dans des textes universitaires. C'est plutôt l'art de la conversation. Et la conversation d'un homme qui est un homme cultivé,
très cultivé,
ne craint pas de parler d'écrivains reconnus, c'est-à-dire il parle à plusieurs reprises de René Char, il parle de Proust,
oui,
il y a de très belles pages sur Proust ou sur René Char, mais il cite également, pour lui donner raison, Henri Bordeaux. Or, aujourd'hui, qui parle d'Henri Bordeaux? C'est peut-être dommage,
mais
c'est certainement dommage. Il est également, c'est le seul texte qui n'avait pas été prévu dans le cadre qu'avait fixé Georges Mayol et que je me suis permis d'ajouter, c'est un texte sur Pierre Loti. Georges Mayol était un grand admirateur de Pierre Loti.
Il y a également un auteur, pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais également il fait appel à un écrivain qui était un peu régional, et sa sœur.
Maurice de Guérin, absolument.
Qui n'est pas très connu non plus.
Qui n'est pas connu, mais qui est tout à fait représentatif d'une certaine sensibilité littéraire du 19e siècle.
Oui, qui a eu quelques
influences. Par la vie provinciale, et ce qui est passionnant, c'est que l'ensemble du livre, bon, il faut redire, je tiens à le préciser, qu'il était prévu par Georges Mayol, mais que c'était quelqu'un de trop pudique ou de trop orgueilleux, je ne veux pas juger, qui ne serait pas allé voir un éditeur pour lui dire, voilà, j'ai fait un ensemble.
Ah oui,
j'ai réuni mes textes, tout était préparé.
Ah,
c'est-à-dire que mon rôle a été un rôle relativement même très modeste, parce que je me suis contenté de partir de quelque chose qui était complètement prévu, architecturé, si je puis dire, c'est-à-dire dans l'ordre qui était prévu par Georges Mayol, y compris la dernière partie, qui est une partie plus personnelle,
fait,
on en reparlera
tout à
l'heure, où il raconte certains souvenirs de famille.
Alors Pierre Cadars, pourquoi vous n'avez pas mis des dates parce que ça s'espace sur un temps très large.
C'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que je pense qu'il ne tenait pas à ce qu'il y ait des notes en bas de page pour dire « je cite ceci, voilà la source telle page prévue en telle année, etc. etc. » Il ne voulait pas non plus, alors il y a là-dedans des textes qui avaient déjà été publiés dans certaines revues, mais ce n'était pas marqué, ce n'était pas prévu, parce que je pense que pour lui, ce aurait été apparaître comme spécialiste, comme le font très bien trop bien certains universitaires
et Dieu qui sait qu'ils ne voulaient pas
avancer un pas sans dire mais il y a ceci à droite, ceci à gauche, ceci derrière. Donc voilà, la date ne compte pas.
D'accord.
Finalement, c'est un livre qui est hors d'âge.
Oui, hors d'âge, hors norme. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est son intérêt pour les faits épars, aboutissant à un ensemble cohérent, c'est-à-dire de l'hétérogène arrivé à quelque chose d'homogène. Et j'ai trouvé très savoureux, dans tous les sens du terme, le début de son ouvrage, quand il s'agit de la cuisinière de Proust, et puis après, il va même parler d'une couturière. Et c'est, enfin, parlons-en, parce que l'importance des choses simples, il respecte la création quelle qu'elle soit.
Absolument, c'est-à-dire que c'est une manière d'aborder des grands textes en biais, c'est-à-dire de ne pas dire « je me confronte à un écrivain, voilà ce que Georges Maillot pense de Proust, voilà ce que Georges Maillot pense de Saint-Simon ou de Chateaubriand », mais une manière de parler comme dans une conversation, c'est-à-dire qu'on ne va pas droit au fait. On commence par parler d'autre chose et c'est petit à petit qu'on entre dans le sujet.
Oui, il utilise une sorte de métaphore parce qu'il montre que dans le travail de Françoise, la cuisinière de Proust, il y a une préparation, elle prépare le repas et comme le narrateur a préparé le texte.
Absolument. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans la dernière partie du livre, qui est un ensemble de souvenirs familiaux, il parle de quelqu'un, d'une dame qui servait dans sa famille, qui s'appelait elle aussi Françoise. Alors, c'est très subtil parce qu'il y a des ponts, il y a des viaducs dans ce livre, dans le temps, et il retrouvait dans la lecture de Proust et dans ce repas préparé par Françoise pour Monsieur de Norpois, je crois, les souvenirs aussi personnel d'une servante de sa famille qui s'appelait Françoise. C'est ça qui est intéressant, c'est ses correspondances.
Cette agilité d'esprit aussi de voir chaque fois quelque chose, des réminiscences. Et puis pour lui, l'art, je dirais, est partout. Et il est sensible à cette transcendance. Moi, j'étais très touchée parce qu'il dit de la couturière et de la cuisinière. Le simple, le délicat, parler de la création et du quotidien.
Oui.
Il y a tout ça qui se joue.
Mais c'est en cela, tout à l'heure, vous me disiez, dans l'université telle qu'elle existait dans les années 70-80, quelle était sa place exacte. Je veux dire, à une époque beaucoup plus structuraliste, plus.
C'était vraiment, on était en plein.
Je crois que Georges Maillot a toujours défendu cette idée que le travail des humbles, des personnes plus humbles, valait celui des grands penseurs.
Voilà, qu'il y a une noblesse.
Il y a une noblesse de la modestie, du travail simple, et c'est également en tant que la même démarche, si je puis dire, qu'il aborde des textes plus très importants.
Oui, et quand il parle par exemple de René Char, là aussi, je trouve qu'il y a une approche très fine et savante quand même de la création poétique. Il dit qu'il voit le poète qui perçoit des voix qu'on devine voilées. Donc, il va toujours chercher l'infime, le caché, à peine caché, le ténu.
Oui,
et dans les choses.
Il y a derrière tout cela, même si ce n'est jamais dit, une recherche du spirituel.
Oui.
C'est évident.
Oui.
Même s'il n'y a aucun texte qui ouvertement débouche sur cette inquiétude ou cette curiosité.
À travers, quand il met en parallèle Mauriac
et voilà. Il parle de Mauriac, il parle de Eugénie de Guérin, il parle d'autres écrivains qui avaient cette inquiétude de José Cabanis, de Saint-Simon. C'est-à-dire que, partant de l'anecdote, il effleure, il aborde, mais d'une manière extrêmement habile, des sujets beaucoup plus profonds.
Oui.
Et ça, c'est ça qui me semble passionnant dans ces textes qui peuvent apparaître à première lecture comme un peu disparates, puisqu'il y a plusieurs textes qui sont juxtaposés. Le dernier texte, c'est un texte de souvenir. Mais ces textes se répondent. J'ai dit un jour, réfléchissant sur ce bouquin, que c'était un petit peu un autoportrait de Georges Maillot et un autoportrait cubiste. Parce que on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement un portrait comme celui photo, c'est-à-dire où on reconnaîtrait immédiatement, mais il se dévoile mais de façon indirecte.
Mais vous faites du maillot, là, parce que vous rassemblez des morceaux pour en faire...
Oui, le truc, ça passe pas un mélange...
hétéroclite, mais hétérogène, sans doute, parce que dans l'art, en général, il parle de composite.
Oui. Hein, oui, le compositeur, mais ça c'était également des questions qui l'intéressaient beaucoup.
Oui.
On parlait tout à l'heure du XVIIIe siècle, je vous l'ai dit, il n'aimait pas qu'on lui donne une étiquette, c'est-à-dire il ne voulait pas être le ou l'un des spécialistes de Voltaire, par exemple. Mais il y a dans toute sa démarche un esprit XVIIIe, et en particulier dans ce qui peut être le rapport du XVIIIe siècle finissant avec l'Antiquité. Il y a un très beau chapitre sur Montesquieu, par exemple.
Oui,
et
oui.
C'était pour lui, qui avait fait des études classiques, la base de Georges Maillot, c'est le grec, le latin et l'allemand. Soyons clairs, c'est l'éducation, disons, dans un bon lycée d'un bon élève, dans les années 30-40. Et là, il recherche toujours ce qui peut le ramener, ou ce qui peut, dans le monde actuel ou dans ses lectures, avoir, comment dire, un rapport avec des événements, des textes beaucoup plus anciens.
Montrer la continuité et l'héritage.
L'héritage. C'est-à-dire, c'est un homme qui pouvait apparaître dans certains engagements politiques, non pas comme révolutionnaire, il ne l'a jamais été à mon avis, mais comme un homme de liberté, c'est-à-dire défendant des libertés, très, très nettement. Mais c'était également quelqu'un qui était, et on le voit très bien dans ses textes, très attaché à des traditions et à des manières de vivre, à un art de vivre, à une manière de se tenir en société, une manière de respecter son voisin, etc. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir parfois la dent un peu dure, mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, oui. Et en vous écoutant, je me disais aussi qu'en fait, il aime également... Bon, il voit des colonnes à terre, il dit dans le fond c'est un ensemble, mais c'est aussi un paysage. De même que dans le jardin de Julie, apparemment c'est du désordre. Et pourtant, il y a un ordre aussi.
Mais oui, mais là encore, nous sommes au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a un texte, par exemple, sur Hubert Robert et sur l'idée des ruines. Quelqu'un qui voit des ruines dans l'esprit d'Hubert Robert à la fin du XVIIIe siècle reconstitue dans sa tête toute l'Antiquité, tout un monde disparu, mais non pas pour y revenir en tant que touriste, mais au contraire pour s'inspirer de cette époque-là, voir quelles leçons on peut tirer des grands anciens. Et c'est ça, comment dire, ne pas mettre de barrières. Je crois que c'est ça qui est fondamental dans la démarche de Georges Maillot, dans ses écrits, dans ce qu'était sa personnalité.
Et il voit tout avec un regard libre, comme vous dites si bien, vous disiez en début d'émission. Il voit tout, et quand il dit voir c'est apprendre, voir c'est méditer sur l'humaine condition, mais sur le monde et l'allure des choses. Il parlait de l'allure des choses.
Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se poser en donneur de leçons. C'est plutôt un voyageur, c'est plutôt quelqu'un qui... C'est Chateaubriand, c'est l'un des grands, une grande admiration de Georges Maillot.
Oui, voilà, mais quand même, en même temps, il montre ce qu'il aime.
Il montre ce qu'il aime, il laisse deviner ce qu'il n'aime pas.
Tout à fait.
Et à charge à chacun, le titre le dit déjà, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, et ainsi, ça veut dire, voilà ce dont j'ai hérité. Ainsi, c'est un aboutissement.
Voilà.
De suite, avec trois points qui suivent, ça veut dire à vous de prendre la suite et à vous de vous positionner par rapport à tout ce que je vous dis. C'est ça qui est fondamental.
Pierre Cadard, je vous propose une pause musicale et nous reprenons dans un instant.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Pierre Cadars, venu nous parler de l'ouvrage de Georges Maillot, ouvrage intitulé « Et ainsi de suite, suivi d'éclats de souvenirs », édité chez Privat. Et Pierre Cadars a été à l'origine de cette compilation d'articles, de réflexions, de textes, à travers lesquels on peut voir la personnalité de Georges Maillot, ce à quoi il croyait, ce qu'il aimait. Et effectivement, Pierre Cadars, vous avez raison, il n'est pas du tout donneur de leçons, on le sent pas comme ça.
Ah non, 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 c'était un excellent enseignant, professeur, professeur d'université, au plus haut niveau qu'il soit. Mais je pense que jamais dans ses cours, je n'ai pas assisté à ses cours, mais j'ai assisté à des conférences. C'était quelqu'un qui ouvrait des fenêtres, qui laissait à son auditeur ou à son étudiant une liberté de manœuvre. Et ça, ça me semble tout à fait caractéristique de la démarche Maillot.
Alors, ça tombe bien parce que j'ai noté sa réflexion pensée large. Il ne veut pas de l'étriqué, du peureux, pour moi, c'est ça. Et il cite Montaigne, « Je porte en moi l'humaine condition ».
Oui, ça fait partie de la grande culture classique française que pouvait avoir Georges Maillot, ancien élève d'école normale supérieure, professeur d'université, et qui était attaché à ce que cette culture, cette tradition avait donné de meilleur.
Oui, alors, une question qui est peut-être d'actualité. Il dit « L'universel ne peut exister à part des sujets et des individus ». C'est-à-dire que... l'homme est un fragment de l'universel. Et alors, et la question actuelle, qu'est-ce que l'individu par rapport à une société dans laquelle il est inséré, et d'une manière plus générale par rapport au monde? Comment il voyait ça selon vous?
Je ne suis pas un exégète de la pensée de Georges Maillot, et il est délicat pour moi d'entrer dans ce détail. Mais je pense que c'était quelqu'un et les textes le prouvent, qui donc était très attaché à la liberté individuelle, au fait qu'il ne devait pas y avoir de barrières, de frontières, en particulier pas de frontières dans le temps, c'est-à-dire que ne pas croire qu'on allait vers un progrès toujours plus grand et que le 18e siècle valait mieux que le 17e et que le 17e valait mieux que le 16e. C'était au contraire un homme de la continuité et de l'héritage. Et toute la dernière partie, donc très personnelle sur ses souvenirs de famille, il le dit très bien, c'est tout ce dont il a hérité de son père ou de son grand-père, qui avait eu, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, une éducation très traditionnelle, et une éducation où on ne disait pas, par exemple, il y a une phrase qu'il reprend, on ne disait pas « j'ai froid », mais on disait « il fait froid ».
Oui,
et la nuance est importante, c'est-à-dire on ne se mettait pas en première ligne, on s'efface et les sensations, les émotions ne doivent pas être exposées, déballées en public.
Exactement l'inverse de ce qui se passe actuellement.
Totalement l'inverse.
Oui, alors j'avais noté l'idée de l'Europe, attendez, c'était en référence à Rousseau et à Voltaire. J'essaie de trouver... Ce n'est donc pas contre la France, mais pour la réalisation d'un idéal philosophique que Voltaire s'attache à l'idée d'Europe. Elle est pour lui la transcription plus politique que géographique des progrès de l'universalisme de l'esprit humain. Dès lors, il n'y a pas de contradiction à exalter la France quand elle est la patrie de la raison éclairée.
Oui, bah, je ne sais pas, on peut ajouter quelque chose de plus. On voit très bien quelle est la position d'un homme qui a été nourri par le siècle des Lumières et qui a été nourri également par l'Antiquité.
Oui. Alors, aussi, ce qui était passionnant, c'est... Alors, vous avez parlé de correspondance dans le temps, de correspondance entre les écrivains, même quand ils n'étaient pas justement de la même période. Alors, à un moment donné, il parle de José Cabanis et de Saint-Simon, et ensuite, tout très intéressant également, de Mauriac et de Nietzsche. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant.
Alors, le rapprochement Cabanis-Saint-Simon se comprend tout de suite, puisque Cabanis a beaucoup parlé de Saint-Simon. Mauriac et Nietzsche, c'est moins habituel. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à penser qu'est-ce qu'il pouvait y avoir.
Mais il s'en sort bien, il s'en sort très bien.
Et voilà, c'est ça qui est intéressant.
Alors, ce qu'il dit de Cabanis, justement, de José, plus que tout autre, Cabanis sait lire chez un grand écrivain passé sa propre histoire. Je trouve ça, cette réflexion, très intéressante.
Ben, c'est en plus la position de Georges Maillot, c'est-à-dire que tout livre, on le sait depuis longtemps, est quand même personnel. On parle de soi en écrivant, même si on écrit sur quelqu'un d'autre. Et là, tout ce livre, je vous le redis, est un autoportrait. C'est-à-dire que pour ceux qui l'ont connu, on devine tout à fait quel était son caractère, quels étaient ses goûts, mais il a la pudeur, l'intelligence de ne jamais les déballer, de ne jamais en faire la liste. C'est-à-dire qu'à chacun de comprendre.
Oui. Et il accorde beaucoup d'importance au temps et également à l'espace. Et là, chez Cabanis et Saint-Simon, il y a cette idée également qu'il y a le temps et son déroulement ne peuvent pas se dissocier d'espace bien circonscrit. J'allais vous arrêter parce que quand il parle de sa demeure de famille, c'est ça l'espace circonscrit.
Tout à fait, c'est-à-dire que Saint-Simon parle de Versailles et de la Cour des Bois, José Cabanis parle de Toulouse, de Nolay, des endroits où il a vécu, et Georges Maillot a des pages superbes sur ce qu'était la maison familiale près de Toulouse, à l'Ardenne. Et là, il se retrouve dans cette démarche-là. Je crois que c'est un homme qui avait besoin, et que nous sommes plusieurs dans ce cas-là, d'un enracinement, de reconnaître qu'il y avait quelque part des lieux, des êtres, des choses, des arbres, même des qui vous créent et qui avaient fait que vous êtes devenu vous-même.
Oui. Alors, justement, là, quand il s'agit de José Cabanis et de Saint-Simon, il parle d'une... peu, mais il parle quand même de la foi. José Cabanis parle d'illumination, l'illumination de la vérité aussi. Et alors, il chez Mauriac et Nietzsche, comme vous le disiez si bien, on s'est dit, tiens, quelle idée de les rapprocher. Et finalement, c'est une façon originale de les aborder.
Oui, puisque, disons, le rapprochement de Mauriac et de Nietzsche n'est pas évident, surtout que ça touche à des admirations de Mauriac jeune, enfin, disons, dans une première partie de sa vie. Et là, le texte est un texte tout à fait éclairant sur ce qu'a pu être, à un certain moment, l'influence de Nietzsche ou d'un certain Nietzsche sur Mauriac.
Oui.
Alors ce n'est pas déterminant, ça ne prétend pas expliquer tout Mauriac. Il est évident que ce n'est pas ça. Mais c'est, comment dire, une manière de mettre en présence des personnes, des personnalités que tout semble séparer et qui peuvent se retrouver quelque part.
Et qui s'apportent mutuellement quelque chose.
Et qui s'apportent mutuellement. Ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur ce qu'était la démarche de Georges Maillot en tant que président d'université, qui savait trouver une synthèse entre des motions très différentes, ben, c'est également présent dans ce livre-là. C'est-à-dire avec des rapprochements qui peuvent sembler tout à fait inattendus et qui sont éclairants quand on les lit de près.
Il disait que Mauriac appréciait chez Nietzsche, il me semble que je le résume correctement, l'élan, le perpétuel rebondissement, les mouvements, une allure encore, il parle souvent d'allure, et qui font s'écarter de la médiocrité casanière et des écritures émollientes. Et selon Mauriac, le dieu est mort de Nietzsche, bon, c'est un faux dieu, bon, d'accord. Et il dit encore que pour Mauriac, Nietzsche l'oblige à confronter sa foi et il évite aux chrétiens la tiédeur et la fadeur. Pour se dégager de toutes les mesquineries des bien-pensants, on sait, on connaît. Où se situe-t-il, lui, là-dedans ?
Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de Mauriac et encore moins de Nietzsche, mais ce que je peux comprendre dans ce texte, c'est une manière de montrer comment Mauriac, dans sa vie, a constamment évolué. Quitte à prendre des positions politiques qui parfois pouvaient surprendre, hein, par exemple dans ses carnets et tout ça. Et je pense que la démarche de Georges Maillot, globalement, a été un peu la même. C'est-à-dire que sans renier quoi que ce soit de ses racines, de l'héritage qu'il avait de sa famille, de son père, de son grand-père. Son père avait été préfet, avait été interrompu dans ses activités à l'époque de l'occupation. Il y a la part d'héritage, mais la volonté sur cette ligne qui a été tracée d'aller plus loin et de savoir s'adapter à un monde qui change. C'est-à-dire de ne pas avoir une position frileuse.
Accepter de se confronter.
Accepter de se confronter et accepter de se remettre en question continuellement. C'est-à-dire de ne pas être dans des molles certitudes, dans une sorte de frilosité qui ferait qu'on s'enfermerait une fois pour toutes dans un passéisme tout à fait vain.
Alors, évidemment, il parle longuement de Proust. Bon, on ne va pas avoir le temps d'en parler. On n'a pas assez de temps. Bon, il parle, ça m'a amusé, de Claude Simon.
Prix Nobel, bien sûr.
Claude Simon et la carte postale,
oui,
ça c'est très drôle.
Pas, justement, c'est intéressant d'aborder Claude Simon par la carte postale, parce qu'on se dit, mais c'est là
qu'est-ce
également
qu'il va chercher,
qui est la vérité d'un écrivain, c'est-à-dire que plutôt que de se lancer dans une étude très approfondie des textes, et il était tout à fait capable de le faire, il dit, voilà, il y a une petite curiosité, et il y a un texte, toujours dans la partie plus personnelle qui est à la fin, où il raconte comment, comme son père, et d'ailleurs comme son fils, c'est quelqu'un qui a, Georges Maillot, découpé des articles, rassemblé des textes, lisé des journaux, avait besoin d'avoir cette activité un petit peu manuelle de collectionneur ou de collecter des différents textes. Et c'est comme ça que se forme une réflexion.
Pour arriver à quelque chose de...
Voilà, on fait un puzzle on essaie de voir quelle est l'unité du puzzle.
Oui, j'ai pensé aux installations de Boltanski. Peut-être qu'il ne les aimait pas, c'est un peu particulier.
Je ne suis pas certain qu'il aimait beaucoup tout cela, mais peut-être que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette même démarche.
Alors, il y a un texte qui s'appelle « Le paysan de Venise », c'est l'évocation du superbe film de Visconti.
Oui, mais c'est également, alors c'est très curieux, parce qu'il parle de l'église San Giorgio Maggiore. Et on ne peut que penser que San Giorgio, c'est lui-même, en partie. Et également, cette idée du paysan de Venise, c'est la volonté que l'on retrouve à plusieurs moments dans ce texte, et qui était l'un des liens sûrement entre Georges Maillot et José Cabanis, d'être des terriens. d'être des personnes qui ne vivaient pas dans leur cabinet de travail ou dans leur cellule, mais qui savaient comment on cultivait les champs, qui savaient comment se faisaient les moissons, qui savaient comment se faisaient les vendanges, qui savaient comment on taillait les arbres et qui savaient ratisser une allée. Voilà. Et ça, c'est également un autre aspect qui me semble tout à fait intéressant dans ce livre.
Oui, alors là, il parle de la mer qui est partout, donc qui est à Venise. On est à Venise, dessus, dessous, dehors, dedans, les tableaux. Mais quand il parle de Loti, le marin, cet éternel errant à la recherche de lui-même, il dit qu'il s'est mêlé aux éléments, donc il s'efface devant eux. Et je me suis dit, mais dans le fond, comme Georges Maillot s'efface devant les écrits.
Il s'efface, je ne sais pas s'il s'efface totalement, je ne crois pas qu'il s'efface. Il se confronte à des écrits. Il a une modestie très grande vis-à-vis de grands écrivains, c'est évident, mais en même temps, il essaie de voir comment respirent ses écrits. C'est-à-dire qu'il ne les prend pas comme des blocs qui seraient complètement fermés sur eux-mêmes, mais il essaie de voir ce qu'il y a dans un écrit, qu'il soit de Proust, de Claude Simon, de René Char, où est la respiration, où est la vérité.
Alors, bon, cette dernière partie plus personnelle, éclat du souvenir, ce sont des fragments d'une histoire de famille, donc à l'usage de mes descendants, note-t-il. Et il parle du souvenir. Le souvenir, c'est très intéressant. Ce souvenir, on est tous intéressés par cela. Comment il se forme le souvenir? Il dit que ce n'est pas immédiat. Il n'est que du temps interrompu. Il se pose des questions. Alors, il parle à la fois aussi du quotidien dans lequel il puise la force et l'originalité, la puissance, et parle de l'éducation. Voilà. Et là, bon, je voudrais en arriver là, finalement,
oui,
parce qu'on
en a... Oui, textes fondamentaux sur l'éducation. Exactement. Alors, peut-être juste une précision, c'est-à-dire que cette dernière partie de l'ouvrage, donc on l'a compris, il y a tout d'abord différents textes sur différents auteurs, différents sujets, qui avaient été écrits préalablement, qui ont donc été rassemblés. Puis il y a une dernière partie, qui est un extrait d'un ouvrage beaucoup plus important, mais qui n'a jamais été édité, qui avait simplement été fait pour ses petits-enfants. Et l'idée de Georges Maillot, c'est après qu'il eut quitté l'université, bon, il était secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux à Toulouse, il avait un peu de temps libre, et il a décidé d'écrire, à l'intention de ses petits-enfants, une sorte d'histoire récente de sa famille, c'est-à-dire de parler de son père, de son grand-père, et de ce qu'était la vie telle qu'il l'avait connue, mais telle aussi qu'on l'avait racontée. Et donc là, pour cet ouvrage, il avait choisi un extrait, assez long, c'est ce qui est à la fin, et donc éclat du souvenir.
La
permanence des choses. C'est-à-dire, c'est une certaine façon, de passer le relais. C'est de dire, d'accord, voilà ce que j'ai appris de mon père, voilà ce que j'ai appris de mon grand-père, voilà ce que j'ai appris des lieux dans lesquels je vis, à charge à mes enfants et petits-enfants de continuer la route, de prendre le relais.
Je me suis interrogée de savoir si, de passer le relais, de transmettre, dans le fond, c'est une manière de transcender la mort. Est-ce qu'il avait peur de la mort?
Il est plusieurs fois, bon, dans sa famille, il y avait eu plusieurs décès très douloureux.
Il parle de son oncle en particulier,
l'un de ses fils, donc mort jeune. Et la mort est présente, elle est présente à plusieurs moments. Donc c'est également un ensemble, un recueil de textes sur le tard. Et il y a, non pas une inquiétude devant la mort, mais une sorte de sérénité en se disant, nous ne mourrons pas, nous sommes des héritiers et nous avons des descendants, je crois.
Oui,
des descendants auxquels il faut donner certaines leçons, des leçons de morale.
Et héritier, ça va être l'éducation, évidemment, le savoir, mais les demeures, les jardins, les livres, les meubles. Et il dit, en certains lieux, rien ne s'efface, tout surgit à tout moment de ce qui n'est plus, donc par-delà le temps.
Oui, je crois que c'est là, et c'est également trouver la vérité dans, les lieux, la création, dans ce qu'elle a de plus présente, de plus quotidien. Hein. C'est Radio Présence, il y a cette présence qui existe.
Bien sûr.
Et il y a ce besoin que pouvait avoir Georges Maillot de, à côté de la lecture de textes très savants, parfois un peu obtus, d'avoir les pieds par terre.
Oui.
De sentir l'air du temps, les saisons, les jours.
Oui, parce qu'il est attentif aux choses, mais il est attentif aux êtres, on le sent, oui. Hein, dans les plus petits détails. On a un sentiment qu'il est solidaire des événements que l'histoire a retenus, et puis des hommes également. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on rappelle aussi qu'il y a une forme de pudeur, en effet, sous un comportement qui me semblait un peu extraverti. Il pouvait être très jovial en compagnie.
Oui, jovial, je ne dirais pas jovial, mais brillant, souvent, caustique, souvent.
Oui, voilà, faisant rire facilement, voilà, quand même.
Mais également cachant ce qu'était sa vérité, voilà. Cachant ce qu'étaient ses blessures, oui. Cachant peut-être ce qu'étaient ses convictions les plus profondes et les plus secrètes.
D'ailleurs, il note quelque chose, on lui avait appris par éducation à refuser de se répandre.
Oui. Oui, absolument, mais c'est ça, c'est toute une éducation telle qu'elle était donnée dans des écoles de jésuites. Ouais. Et son père avait été lui-même un moment dans des écoles tenues par des jésuites.
Voilà, il y a un beau passage sur la fin de la vie, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais on va dire à nos auditeurs, bah voilà, il faut qu'ils se procurent le livre et ainsi de suite. Voilà, il rassemble sa famille, finalement, c'est ce que j'ai retenu. Je pense à une phrase d'Eugénie de Guérin. Il replace de cœur les portes ôtées, les pierres tombées. Il passe le relais.
Absolument.
Voilà. En tout cas, Pierre Cadars, un grand merci d'être venu parler de cet ouvrage.
Merci.
Voilà. Et je rappelle donc qu'il s'agit d'un ouvrage édité par Priva, de Georges Maillos, et ainsi de suite. Le nom, le titre. Au revoir.
Au revoir.